Émilie. Personne n'a bien su l'histoire du lieutenant Desroches, qui se fit tuer l'an passé au combat de Hambergen, 2 mois après ses noces. Si ce fut là un véritable suicide, que Dieu veuille lui pardonner. Mais certes, lui qui meurt en défendant sa patrie ne mérite pas que son action soit nommée ainsi, quelle qu'ait été sa pensée d'ailleurs. Nous voilà retombés, dit le docteur dans le chapitre des capitulations de conscience. Desroches était un philosophe décidé à quitter la vie. Il n'a pas voulu que sa mort fût inutile. Il s'est élancé bravement dans la mêlée. Il a tué le plus d'Allemands qu'il a pu, en disant « Je ne puis mieux faire à présent. Je meurs content » et il a crié « Vive l'Empereur !» en recevant le coup de sabre qui l'a abattu. 10 soldats de sa compagnie vous le diront. « Et ce n'en fut pas moins un suicide, » répliqua Arthur. « Toutefois, je pense qu'on aurait eu tort de lui fermer l'église. » À ce compte, vous flétririez le dévouement de Curtius. Ce jeune chevalier romain était peut-être ruiné par le jeu, malheureux dans ses amours, las de la vie, qui sait. Mais assurément, il est beau en songeant à quitter le monde de rendre sa mort utile aux autres. Et voilà pourquoi cela ne peut s'appeler un suicide, car le suicide n'est autre chose que l'acte suprême de l'égoïsme, et c'est pour cela seulement qu'il est flétri parmi les hommes. À quoi pensez-vous, Arthur ? Je pense à ce que vous lisiez tout à l'heure, que Desroches, avant de mourir, avait tué le plus d'Allemands possible. Eh bien, ces braves gens sont allés rendre devant Dieu un triste témoignage de la belle mort du lieutenant. Vous me permettrez de dire que c'est là un suicide, bien homicide. Eh bien, qui va songer à cela? Les Allemands, ce sont des ennemis. Mais y en a-t-il pour l'homme résolu à mourir? À ce moment-là, tout instinct de nationalité s'efface, et je doute que l'on songe à un autre pays que l'autre monde, et à un autre empereur que Dieu. Mais l'abbé nous écoute sans rien dire, et cependant j'espère que je parle ici selon ses idées. Allons, l'abbé, dites-nous votre opinion, et tâchez de nous mettre d'accord. C'est là une mine de controverses assez abondante. Et l'histoire de Desroches, ou plutôt ce que nous en croyons savoir, le docteur et moi, ne paraît pas moins ténébreuse que les profonds raisonnements qu'elle a soulevés parmi nous. Oui, dit le docteur, Desroches, à ce qu'on prétend, était très affligé de sa dernière blessure, celle qui l'avait si fort défiguré. Et peut-être a-t-il surpris quelques grimaces ou quelques railleries de sa nouvelle épouse. Les philosophes sont susceptibles. En tout cas, il est mort, et volontairement. Volontairement, puisque vous y persistez. Mais n'appelez pas suicide la mort qu'on trouve dans une bataille. Vous ajouteriez un contresens de mots à celui que peut-être vous faites en penser. On meurt dans une mêlée parce qu'on y rencontre quelque chose qui tue. Ne meurt pas qui veut. Eh bien, voulez-vous que ce soit la fatalité ? À mon tour, interrompit l'abbé, qui s'était recueilli pendant cette discussion, il vous semblera singulier peut-être que je combatte vos paradoxes ou vos suppositions. Eh bien, parlez, parlez. Vous en savez plus que nous, assurément. Vous habitez Beach depuis longtemps. On dit que Desroches vous connaissait, et peut-être même s'est-il confessé à vous. En ce cas, je devrais me taire, mais il n'en fut rien, malheureusement. Et toutefois la mort de Desroches fut chrétienne, croyez-moi. Et je vais vous en raconter les causes et les circonstances, afin que vous emportiez cette idée que ce fut là encore un honnête homme, ainsi qu'un bon soldat, mort à temps pour l'humanité, pour lui-même, et selon les desseins de Dieu. Desroches était entré dans un régiment à 14 ans, à l'époque où la plupart des hommes s'étant fait tuer sur la frontière, notre armée républicaine se recrutait parmi les enfants. Faible de corps, mince comme une jeune fille, et Paul, ses camarades souffraient de lui voir porter un fusil, sous lequel ployait son épaule. Vous devez avoir entendu dire qu'on obtint du capitaine l'autorisation de le lui rogner 2-6 pouces. Ainsi, accommodé à ses forces, l'arme de l'enfant fit merveille dans les guerres de Flandre. Plus tard, Desroches fut dirigé sur Haguenau, dans ce pays où nous faisions, c'est-à-dire où vous faisiez la guerre depuis si longtemps. À l'époque dont je vais vous parler, Desroches était dans la force de l'âge, et servait d'enseigne au régiment bien plus que le numéro d'ordre et le drapeau, car il avait à peu près seul survécu à 2 renouvellements, et il venait enfin d'être nommé lieutenant quand à Bergen, il y a 27 mois, en commandant une charge à la baïonnette, il reçut un coup de sabre prussien tout au travers de la figure. La blessure était affreuse. Les chirurgiens de l'ambulance, qui l'avaient souvent plaisanté, lui vierge encore d'une égratignure après 30 combats, froncèrent le sourcil quand on l'apporta devant eux. S'il guérissait, dirent-ils, le malheureux deviendra imbécile ou fou. C'est à Metz que le lieutenant fut envoyé pour se guérir. La civière avait fait plusieurs lieues sans qu'il s'en aperçût. Installé dans un bon lit et entouré de soins, il lui fallut 5 ou 6 mois pour arriver à se mettre sur son séant, et 100 jours encore pour ouvrir un œil et distinguer les objets. On lui commanda bientôt les fortifiants, le soleil, puis le mouvement, enfin la promenade. Et un matin, soutenu par 2 camarades, il s'achemina tout vacillant, tout étourdi, vers le quai Saint-Vincent, qui touche presque à l'hôpital militaire. Et là, on le fit asseoir sur l'esplanade, au soleil du midi, sous les tilleuls du jardin public, le pauvre blessé croyait voir le jour pour la première fois. À force d'aller ainsi, il put bientôt marcher seul. Et chaque matin, il s'asseyait sur un banc, au même endroit de l'esplanade, la tête ensevelie dans un amas de taffetas noir, sous lequel à peine on découvrait un coin de visage humain. Et sur son passage, lorsqu'il se croisait avec des promeneurs, il était assuré d'un grand salut des hommes, et d'un geste de profonde commisération des femmes, ce qui le consolait peu. Mais une fois assis à sa place, il oubliait son infortune, pour ne plus songer qu'au bonheur de vivre après un tel ébranlement, et au plaisir de voir en quel séjour il vivait. Depuis lui, la vieille citadelle, ruinée sous Louis XVI, étalait ses remparts dégradés. Sur sa tête, les tilleuls en fleurs projetaient leur ombre épaisse. À ses pieds, dans la vallée qui se déploie au-dessous de l'esplanade, les prés Saint-Symphorien, que vivifient en les noyant la Moselle débordée, et qui verdissent entre ses 2 bras, puis le petit flot, l'oasis de la Poudrière, cette île du Saulcy, semée d'ombrages, de chaumières, enfin la chute de la Moselle et ses blanches écumes, ses détours étincelants au soleil, puis tout au bout, bornant le regard, la chaîne des Vosges, bleuâtre et comme vaporeuse au grand jour. Voilà le spectacle qu'il admirait toujours davantage, en pensant que là était son pays, non pas la terre conquise, mais la province vraiment française, tandis que ses riches départements nouveaux, où il avait fait la guerre, n'étaient que des beautés fugitives, incertaines, comme celle de la femme gagnée hier, qui ne nous appartiendra plus demain. Vers le mois de juin, au premier jour, la chaleur était grande, et le banc favori de Desroches, se trouvant bien à l'ombre, 2 femmes vinrent s'asseoir près du blessé. Il salua tranquillement et continua de contempler l'horizon, mais sa position inspirait tant d'intérêt que les 2 femmes ne purent s'empêcher de le questionner et de le plaindre. L'une des 2, fort âgée, était la tante de l'autre qui se nommait Émilie, et qui avait pour occupation de broder des ornements d'or sur de la soie ou du velours. Desroches questionna comme on lui en avait donné l'exemple, et la tante lui apprit que la jeune fille avait quitté Haguenau pour lui faire compagnie, qu'elle brodait pour les églises, et qu'elle était depuis longtemps privée de tous ses autres parents. Le lendemain, le banc fut occupé comme la veille. Au bout d'une semaine, il y avait traité d'alliance entre les 3 propriétaires de ce banc favori. Et Desroches, tout faible qu'il fût, tout humilié par les attentions que la jeune fille lui prodiguait, comme au plus inoffensif vieillard, Desroches se sentit léger, en fond de plaisanterie, et plus près de ce séjour que de s'affliger de ces 2 bonnes fortunes inattendues. Alors, de retour à l'hôpital, il se rappela sa hideuse blessure, cet épouvantail dont il avait souvent gémi en lui-même, lui et que d'habitude et la convalescence lui avaient rendu depuis longtemps moins déplorable. Il est certain que Desroches n'avait pu encore ni soulever l'appareil inutile de sa blessure, ni se regarder dans un miroir. De ce jour-là, cette idée le fit frémir plus que jamais. Cependant, il se hasarda à écarter un coin du taffetas protecteur, et il trouva dessous une cicatrice un peu rose encore, mais qui n'avait rien de trop repoussant. En poursuivant cette observation, il reconnut que les différentes parties de son visage s'étaient recousues convenablement entre elles, et que l'œil demeurait fort limpide et fort sain. Il manquait bien quelques brins du sourcil, mais c'était si peu de choses. Cette raie oblique qui descendait du front à l'oreille, en traversant la joue, c'était... Eh bien, c'était un coup de sabre reçu à l'attaque des lignes de Berghem, et rien n'est plus beau. Les chansons l'ont assez dit. Donc Desroches fut étonné de se retrouver si présentable après la longue absence qu'il avait faite de lui-même. Il ramena fort adroitement ses cheveux qui grisonnaient du côté blessé. Sous les cheveux noirs abondants du côté gauche, étendit sa moustache sur la ligne de la cicatrice le plus loin possible, et ayant endossé son uniforme neuf, il se rendit le lendemain à l'esplanade d'un air assez triomphant. Dans le fait, il s'était si bien redressé, si bien tourné, son épée avait si bonne grâce à battre sa cuisse, et il portait le shako si martialement incliné en avant, que personne ne le reconnut dans le trajet de l'hôpital au jardin. Il arriva le premier au banc des tilleuls, et s'assit comme à l'ordinaire, en apparence, mais au fond bien plus troublé et bien plus pâle, malgré l'approbation du miroir. Les deux dames ne tardèrent pas à arriver, mais elles s'éloignèrent tout à coup en voyant un bel officier occuper leur place habituelle. Desroches fut tout ému. « Et quoi ?» leur cria-t-il. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Ne pensez pas que ces préliminaires nous conduisent à une de ces histoires où la pitié devient de l'amour, comme dans les opéras du temps. » Le lieutenant avait désormais des idées plus sérieuses. Content d'être encore jugé comme un cavalier passable, il se hâta de rassurer les deux dames, qui paraissaient disposées, d'après sa transformation, à revenir sur l'intimité commencée entre trois. Leur réserve ne put tenir devant ces franches déclarations. L'union était sortable de tout point d'ailleurs. Desroches avait un petit bien de famille près d'Épinal. Émilie possédait, comme héritage de ses parents, une petite maison à Haguenau, louée au café de la ville, et qui rapportait encore 500 à 600 francs de rente. Il est vrai qu'il en revenait la moitié à son frère Willem, principal clerc de notaire de Schenberg. Quand les dispositions furent bien arrêtées, on résolut de se rendre pour la noce à cette petite ville, car là était le domicile réel de la jeune fille, qui n'habitait Metz depuis quelque temps que pour ne point quitter sa tante. Toutefois, on convint de revenir à Metz après le mariage. Émilie se faisait un grand plaisir de revoir son frère. Desroches s'étonna à plusieurs reprises que ce jeune homme ne fût pas aux armées, comme tous ceux d'autre temps. On lui répondit qu'il avait été réformé pour cause de santé. Desroches le plaignit vivement. Voici donc les deux fiancés et la tante en route pour Haguenau. Ils ont pris des places dans la voiture publique qui relaye à Bitche, laquelle était alors une simple patache composée de cuir et d'osier. La route est belle, comme vous savez. Desroches, qui ne l'avait jamais faite qu'en uniforme, un sabre à la main, en compagnie de 3 à 4 000 hommes, admirait les solitudes, les roches bizarres, les horizons bordés par cette dentelure des monts revêtus d'une sombre verdure, que de longues vallées interrompent seulement de loin en loin. Les riches plateaux de Saint-Avold, les manufactures de Sarreguemines, les petits taillis compacts de Langbling, où les frênes, les peupliers et les sapins étalent leur triple couche de verdure nuancée, du gris au vert sombre, vous savez combien tout cela est d'un aspect magnifique et charmant. À peine arrivés à Bitche, les voyageurs descendirent à la petite auberge du Dragon, et Desroches me fit demander au fort. J'arrivai avec empressement. Je vis sa nouvelle famille, et je complimentai la jeune demoiselle, qui était d'une rare beauté, d'un maintien doux, et qui paraissait fort éprise de son futur époux. Ils déjeunèrent tous trois avec moi, à la place où nous sommes assis dans ce moment. Plusieurs officiers, camarades de Desroches, attirés par le bruit de son arrivée, le vinrent chercher à l'auberge, et le retinrent à dîner chez l'hôtelier de la Redoute, où l'état-major payait pension. Il fut convenu que les deux dames se retireraient de bonne heure, et que le lieutenant donnerait à ses camarades sa dernière soirée de garçon. Le repas fut gai. Tout le monde savourait sa part du bonheur et de la gaieté que Desroches ramenait avec lui. On lui parla de l'Égypte, de l'Italie, avec transport, en faisant des plaintes amères sur cette mauvaise fortune qui confinait tant de bons soldats dans des forteresses de frontières. « Oui, murmuraient quelques officiers, nous étouffons ici. La vie est fatigante et monotone. Autant vaudrait être sur un vaisseau que de vivre ainsi dans sans combat, sans distraction, sans avancement possible. Le fort est imprenable, a dit Bonaparte, quand il a passé ici en rejoignant l'armée d'Allemagne. Nous n'avons donc rien que de la chance de mourir d'ennui. » Hélas, mes amis, répondit Desroches, ce n'était guère plus amusant de mon temps, car j'ai été ici comme vous, et je me suis plaint comme vous aussi. Moi, soldat parvenu jusqu'à l'épaulette, à force d'user les souliers du gouvernement dans tous les chemins du monde, je ne savais guère alors que trois choses, l'exercice, la direction du vent et la grammaire, comme on l'apprend chez le magister. Aussi, lorsque je fus nommé sous-lieutenant et envoyé à Bitche avec le 2e bataillon du Cher, je regardais ce séjour comme une excellente occasion d'études sérieuses et suivies. Dans cette pensée, je m'étais procuré une collection de livres, de cartes et de plans. J'ai étudié la théorie et appris l'allemand sans étude, car dans ce pays français et bon français, on ne parle que cette langue. De sorte que ce temps, si long pour vous, qui n'avait plus temps à apprendre, je le trouvais court et insuffisant. Et quand la nuit venait, je me réfugiais dans un petit cabinet de pierre sous la vis du grand escalier. J'allumais ma lampe en calfeutrant hermétiquement les meurtrières, et je travaillais, une de ces nuits-là. Ici Desroches s'arrêta un instant, passa la main sur ses yeux, vida son verre, et reprit son récit sans terminer sa phrase. « Vous connaissez tous, dit-il, ce petit sentier qui monte de la plaine ici et que l'on a rendu tout à fait impraticable, en faisant sauter un gros rocher, à la place duquel à présent s'ouvre un abîme. Eh bien, ce passage a toujours été meurtrier pour les ennemis toutes les fois qu'ils ont tenté d'assaillir le fort. À peine engagés dans ce sentier, les malheureux essuyaient le feu de 4 pièces de 24, qu'on n'a pas dérangé sans doute, et qui rasaient le sol dans toute la longueur de cette pente. « Vous avez dû vous distinguer, dit un colonel à Desroches. Est-ce là que vous avez gagné la lieutenance ?»«
Oui, colonel, et c'est là que j'ai tué le premier, le seul homme que j'ai frappé en face de ma propre main. C'est pourquoi la vue de ce fort me sera toujours pénible. »«
Que nous dites-vous là ? » s'écria-t-on.
« Quoi ? Vous avez fait 20 ans la guerre ? Vous avez assisté à 15 batailles rangées, à 50 combats peut-être, et vous prétendez n'avoir jamais tué qu'un seul ennemi ?»«
Je n'ai pas dit cela, messieurs. Des 10 000 cartouches que j'ai bourrées dans mon fusil, qui sait si la moitié n'a pas lancé une balle au but que le soldat cherche ?
Mais j'affirme qu'à Bitche, pour la première fois, ma main s'est rougie du sang d'un ennemi, et que j'ai fait le cruel essai d'une pointe de sabre que le bras pousse jusqu'à ce qu'elle crève une poitrine humaine et s'y cache en frémissant.
« C'est vrai, interrompit l'un des officiers, le soldat tue beaucoup et ne le sent presque jamais. Une fusillade n'est pas, à vrai dire, une exécution, mais une intention mortelle. Quant à la baïonnette, elle fonctionne peu dans les charges les plus désastreuses. C'est un conflit dans lequel l'un des deux ennemis tient ou cède sans porter de coups. Les fusils s'entrechoquent, puis se relèvent quand la résistance cesse. Le cavalier, par exemple, frappe réellement. »
Aussi, reprit Desroches, de même que l'on n'oublie pas le dernier regard d'un adversaire tué en duel, son dernier râle, le bruit de sa lourde chute, de même je porte en moi presque comme un remords. Riez-en si vous pouvez. L'image pâle et funèbre du sergent prussien que j'ai tué dans la petite poudrière du fort. Tout le monde fit silence. Et Desroches commença son récit.
C'était la nuit, je travaillais comme je l'ai expliqué tout à l'heure. À 2 heures, tout doit dormir, excepté les sentinelles. Les patrouilles sont fort silencieuses. Et tout bruit fait esclandre. Pourtant, je crus entendre, comme un mouvement prolongé dans la galerie qui s'étendait sous ma chambre. On heurtait à une porte, et cette porte craquait. Je courus, je prêtai l'oreille au fond du corridor, et j'appelai à demi-voix la sentinelle. Pas de réponse. J'eus bientôt réveillé les canonniers, endossé l'uniforme, et prenant mon sabre sans fourreau, je courus du côté du bruit. Nous arrivâmes 30 à peu près dans le rond-point que forma la galerie vers son centre, et à la lueur de quelques lanternes, nous reconnûmes les Prussiens, qu'un traître avait introduit par la poterne fermée. Ils se pressaient avec désordre, et en nous apercevant, ils tirèrent quelques coups de fusil, dont l'éclat fut effroyable dans cette pénombre et sous ces voûtes écrasées. Alors on se trouva face à face. Les assaillants continuaient d'arriver. Les défenseurs descendirent précipitamment dans la galerie. On en vint à pouvoir à peine se remuer, mais quand il y avait entre les deux parties un espace de 6 à 8 pieds, un champ clos que personne ne songeait à occuper, tant il y avait de stupeur chez les Français surpris, et de défiance chez les Prussiens désappointés. Pourtant, l'hésitation dura peu. La scène se trouvait éclairée par des flambeaux et des lanternes. Quelques canonniers avaient suspendu les leurs aux parois. Une sorte de combat antique s'engagea. J'étais au premier rang, je me trouvais en face d'un sergent prussien de haute taille, tout couvert de chevrons et de décorations. Il était armé d'un fusil, mais il pouvait à peine le remuer, tant la presse était compacte. Tous ces détails me sont encore présents, hélas. Je ne sais s'il songeait même à me résister. Je m'élançai vers lui, j'enfonçai mon sabre dans ce noble cœur. La victime ouvrit horriblement les yeux, crispa ses mains avec effort, et tomba dans les bras des autres soldats. Je ne me rappelle pas ce qui suivit. Je me retrouvai dans la première cour, tout mouillé de sang. Les Prussiens, refoulés par la poterne, avaient été reconduits à coups de canon jusqu'à leur campement. Après cette histoire, il se fit un long silence, et puis l'on parla d'autre chose. C'était un triste et curieux spectacle pour le penseur que toutes ces physionomies de soldats assombries par le récit d'une infortune si vulgaire en apparence. Et l'on pouvait savoir au juste ce que vaut la vie d'un homme, même d'un Allemand, docteur en interrogeant les regards intimités de ses lueurs de profession. « Il est certain, répondit le docteur un peu étourdi, que le sang de l'homme crie bien haut, de quelque façon qu'il soit versé. Cependant, Desroches n'a point fait de mal. Il se défendait.
« Qui le sait ?» murmura Arthur.
« Vous qui parliez de capitulation de conscience, docteur, dites-nous si cette mort du sergent ne ressemble pas un peu à un assassinat. Est-il sûr que le Prussien eût tué Desroches ?»«
Mais c'est la guerre, que voulez-vous »
« À la bonne heure, oui, c'est la guerre.
ont eu à 300 pas dans les ténèbres un homme qui ne vous connaît pas et ne vous voit pas. On égorge en face et avec la fureur dans le regard des gens contre lesquels on n'a pas de haine. Et c'est avec cette réflexion qu'on s'en console et qu'on s'en glorifie. Et cela se fait honorablement entre des peuples chrétiens. L'aventure de Desroches sema donc différentes impressions dans l'esprit des assistants. Et puis l'on fut se mettre au lit. Notre officier oublia le premier sa lugubre histoire, parce que de la petite chambre qui lui était donnée, on apercevait parmi les massifs d'arbres une certaine fenêtre de l'hôtel du Dragon, éclairée de l'intérieur par une veilleuse. Là dormait tout son avenir, lorsqu'au milieu de la nuit, les ronds et le qui-vive venaient le réveiller. Il se disait qu'en cas d'alarme, son courage ne pourrait plus comme autrefois galvaniser tout l'homme, et qu'il s'y mêlerait un peu de regret et de crainte. Avant l'heure de la diane, le lendemain, le capitaine de garde lui ouvrit là une porte, et il trouva ses deux amis qui se promenaient en l'attendant le long des fossés extérieurs. Je les accompagnai jusqu'à Neuhofen, car ils devaient se marier à l'état civil d'Haguenau et revenir à Metz pour la bénédiction nuptiale. Wilhelm, le frère d'Émilie, fit à Desroches un accueil assez cordial. Les deux beaux-frères se regardaient parfois avec une attention opiniâtre. Wilhelm était d'une taille moyenne mais bien prise. Ses cheveux blonds étaient rares déjà, comme s'il eût été miné par l'étude ou par les chagrins. Il portait des lunettes bleues à cause de sa vue, si faible, disait-il, que la moindre lumière le faisait souffrir. Desroches apportait une liasse de papier que le jeune praticien examina curieusement, puis il produisit lui-même tous les titres de sa famille, en forçant Desroches à s'en rendre compte. Mais il avait affaire à un homme confiant, amoureux et désintéressé. Les enquêtes ne furent donc pas longues. Cette manière de procéder parut flatter quelque peu Wilhelm. Aussi commença-t-il à prendre le bras de Desroches, à lui offrir une de ses meilleures pipes et à le conduire chez tous ses amis d'Haguenau. Partout on fumait et l'on buvait force bière. Après 10 présentations, Desroches demanda grâce et on lui permit de ne plus passer ses soirées qu'auprès de sa fiancée.